Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Un nouvel élan, une accélération, du punch, on peut choisir le vocabulaire que l'on veut, mais ce qui est sûr, c'est que la négociation sur la future relation commerciale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ne donne pour l'instant pas grand-chose pour avoir besoin d'être relancée comme ça, et que si l'on veut éviter une absence d'accord à la fin de l'année, les prochaines semaines vont être décisives. Au-delà des postures, chacun a besoin d'un accord sur les sujets qui posent problème, un échec pourrait coûter cher aux protagonistes, surtout après la crise économique née de la pandémie de Covid-19. Le chemin choisi par le Royaume-Uni pourrait-il mener à un isolement pas si splendide qu'espéré ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous par téléphone. Catherine Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et spécialiste notamment de l'économie britannique. Elvire Fabry, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur senior à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'action extérieure de l'Union européenne et des négociations TTIP. Et Sophie Loussouarne, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Picardie et spécialiste de la politique et de l'économie britannique. Catherine Mathieu, on l'a perçu ces derniers jours et lundi à l'issue d'une réunion en visioconférence. Pourquoi ce besoin d'accélérer les négociations ?
Alors, il faut accélérer les négociations parce que ce qui est prévu, c'est que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne au 31 décembre cette année, sauf si l'on prolonge la période de la transition qui est prévue justement pour durer jusqu'au 31 décembre. Alors, cela fait des semaines que l'Union européenne essaye d'inciter les Britanniques à demander justement que cette période de transition soit prolongée pour qu'on puisse continuer à négocier. Mais du côté britannique, on dit que non, on quittera l'Union européenne le 31 décembre 2020. Et donc, il faut absolument discuter et trouver des accords rapidement, trouver des accords entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ou sinon, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne définitivement le 31 décembre sans accord. Et cela, personne ne le souhaite, ni au Royaume-Uni, ni dans l'Union européenne.
Alors, ces dernières semaines, chacun a expliqué qu'en cas de no deal, d'absence d'accord, il serait moins touché que l'autre. Qu'on a autre chose à faire, notamment la négociation de la relance européenne après la pandémie de Covid-19. Elvire Fabry, quelle est la part de posture là-dedans ?
La part de posture, elle est colossale, si je puis dire. Elle est colossale du côté britannique, la position est ferme du côté européen. En fait, il faut partir du principe que les Britanniques sont sortis de l'Union européenne, mais avaient cette année 2020 avec les Européens pour prendre le temps de négocier des modalités, parce que en effet l'économie britannique dépend largement et très intégrée dans le marché unique, et que toute nouvelle friction, si on ne se met pas d'accord pour essayer à minima de mettre en place un accord commercial, ça introduirait énormément de frictions pour les entreprises dans les échanges commerciaux, et puis ça leur demande de restructurer leur chaîne de production, et ça aurait un impact très lourd sur l'économie britannique. Ça, ce sont toutes les estimations qui sont déjà dans le tube, si je puis dire, depuis un an, deux ans, trois ans. Maintenant, le Covid est intervenu, et ce qui est formidable, c'est que on a le sentiment que cette négociation ne bouge pas. C'est vrai, vous l'avez dit, l'attention est ailleurs. Les capitales sont concentrées sur la récession dans laquelle on est en train de plonger. Et les deux parties, la partie européenne et la partie britannique, ont chacune leur position de négociation. Elles ont des mandats de négociation avec des points de vue très opposés sur un certain nombre de questions qui bloquent la pêche, les services financiers, mais surtout la question des conditions de compétition équitables dans la phase post-Brexit. Et côté britannique, on a l'impression qu'on est encore dans une, pour revenir à votre question sur la posture, on est encore dans une approche complètement politique du Brexit, et que malgré la situation dramatique des économies, la réalité économique n'infuse pas, et que ça n'a absolument pas infléchi pour avoir au moins une appétence de négociation. Que le sentiment qu'on a, c'est qu'on n'a pas des négociateurs britanniques qui sont engagés dans la négociation. Et on vient d'entendre Boris Johnson en début de semaine dire « Allez, il faut y aller, il faut mettre un tigre dans le moteur ». mais on n'attend que ça du côté européen, qui est de dire « venez, mettez-vous à table et qu'on puisse discuter ». On a le sentiment de ne pas avoir d'interlocuteur côté britannique.
Sophie Lousouarn, Boris Johnson a été élu, on va le rappeler, il a été largement élu, et il n'y a pas longtemps, pour réaliser le Brexit, « Get Brexit Done ». Est-ce qu'il est toujours aussi soutenu par sa propre majorité et par son opinion à mesure que la date, l'échéance se rapproche?
Alors, Boris Johnson a été élu avec une majorité de plus de 80 sièges à la Chambre des communes lors de l'élection législative du 8 décembre. Il est toujours soutenu par sa majorité conservatrice, mais elle demande aujourd'hui de supprimer la quarantaine, qui nuit énormément à l'économie britannique, et de supprimer les mesures de distanciation sociale de 2 mètres. Il a perdu un peu de sa popularité au cours de la gestion du Covid, mais aujourd'hui, il a réaffirmé qu'il excluait une extension de la période de transition qui doit être demandée avant le 1er juillet 2020. Il souhaite tourner la page du Brexit et conclure des accords avec l'Union européenne, mais il souhaite des traités différents pour les services, pour la pêche, pour la sécurité, alors que l'Union européenne ne veut qu'un seul traité. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, s'est mis à négocier avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui appartiennent tous deux au pacte transpacifique et qui représentent en effet un débouché commercial important pour le Royaume-Uni. Pour le Royaume-Uni, il est important de quitter l'Union européenne le 31 décembre 2020 afin de pouvoir signer des accords bilatéraux avec des pays tiers.
Alors, on va en reparler, mais d'abord, sur cette date du 31 décembre 2020, Catherine Mathieu, on a tous pris un petit peu d'expérience ces 2-3 dernières années. Chacun a appris à relativiser les dates butoirs depuis le début des négociations sur le Brexit. Que vaut celle du 31 décembre 2020 ?
Alors, en principe, c'est une date de sortie ferme pour le Royaume-Uni. Alors, effectivement, comme vous le dites, depuis que le Royaume-Uni a voté en juin 2016 pour le Brexit, on a eu des dates qui ont été reportées, hein, des dates de sortie. Mais là, je pense qu'on a clairement du côté britannique, du côté du gouvernement actuel, le souhait que le Royaume-Uni soit complètement sorti de l'Union européenne le 31 décembre. Et donc, je ne crois pas, en tout cas, que le gouvernement britannique essaiera de négocier un délai sur cette date de sortie. Alors aujourd'hui, hein, bien sûr, on est dans des rounds de négociations. Moi, je pense, contrairement à Edvard Fabry, que les Britanniques sont dans une position très active sur la question des négociations. Ils souhaitent justement aller au plus vite en essayant d'avancer sur ce qui est leur ligne de négociation depuis le début, c'est-à-dire de dire qu'il faut négocier un accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais garder un certain point qui sont très importants pour le gouvernement, un certain nombre de points très importants pour le gouvernement britannique actuel en matière de souveraineté, notamment de prendre des distances par rapport, de façon possible, par rapport aux normes en vigueur dans l'Union européenne et par rapport à la réglementation en vigueur dans l'Union européenne. Donc les Britanniques restent fermes sur ces positions-là aujourd'hui, les négociateurs britanniques dans le cadre des négociations. Et du côté de l'Union européenne, on essaye, pour l'instant, on garde une porte ouverte sur l'ensemble de ces points. Alors ce qui se dessine très, très probablement, hein, ce sont il y a 6 rounds de négociations qui ont été annoncés, qui vont avoir lieu en juillet et en août, donc un calendrier de négociations très serré. Il y a la possibilité, avec l'entrée de l'Allemagne, l'Allemagne va prendre la présidence de l'Union européenne au 1er juillet de cette année, et que l'Allemagne réussisse à infléchir ou à mettre en place un accord avec les Britanniques, peut-être de façon plus simple que d'autres pays de l'Union européenne. Et il y aura un sommet de l'Union européenne prévu en octobre qui pourrait être le moment où, en fait, on aurait vraiment avancé sur cet accord avec entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et effectivement, actuellement, les Britanniques négocient non seulement avec l'Union européenne, mais ils négocient aussi avec les États-Unis, négocient avec l'Australie. Ils sont déjà entrés dans une phase active de négociation d'accords de libre-échange. Et je pense qu'ils continueront à avancer de façon active, malgré toutes les autres questions qui se posent aujourd'hui. Et bien sûr, évidemment, la question de la crise sanitaire liée au Covid. Ils essayent d'avancer quand même sur ces négociations de libre-échange.
Alors Elvire Fabry, vous allez pouvoir répondre à Catherine Mathieu puisque vous avez apparemment un léger point de désaccord et je rajoute ma question pour vous, que vaut la date du 31 décembre ?
La date du 31 décembre, ça veut dire qu'elle nous laisse très peu de temps pour essayer d'engager une amorce déjà d'accord, on a envie de dire d'accord commercial parce que finalement, ce que l'on voit, c'est que ce que l'on a à négocier avec les Britanniques, ce n'est pas simplement le flux des échanges commerciaux, c'est un menu colossal. C'est les transferts des données. Les Britanniques ont dit qu'ils ne voulaient pas s'aligner sur le régime européen RGDP de réglementation européenne. C'est déjà un enjeu colossal. Mais en matière de justice, en matière de sécurité, en matière de pêche, en matière pour les services financiers. On voit que c'est une accumulation de dossiers énormes. Et dans le temps imparti, ce que l'on arriverait à faire, c'est éventuellement à se mettre d'accord sur une amorce de petit accord commercial. Pourquoi les Européens veulent un accord d'ensemble ? Ils veulent se mettre d'accord sur une gouvernance, sur des règles qui permettraient de mettre d'abord une première brique de négociation, éventuellement sur... Le fait de maintenir qu'il n'y aurait pas de nouveaux droits de douane sur les échanges commerciaux, ce serait déjà une première chose, une évidence, d'une certaine façon, on a envie de dire. Mais au-delà de ça, il y a toute la part réglementaire. Si les Britanniques continuent à vouloir diverger des règles européennes telles qu'ils le souhaitent, ça a beaucoup d'implications. C'est mathématique, c'est-à-dire que pour les Européens, ça veut dire qu'il faut rétablir des contrôles, que ça renforce le coût et les délais. Mais à partir de là, si on arrivait à se mettre au moins d'accord sur un minimum d'éléments sur le plan commercial, il faudrait prendre le temps de négocier tous les autres chapitres au-delà de la date du 31 décembre. C'est pour ça qu'il faut se mettre d'accord sur des principes d'ensemble. Ce que les négociateurs britanniques se refusent à faire, ils souhaitent pouvoir obtenir une succession de petits accords. Et c'est là où l'échéance des prochaines semaines, on a envie de dire, d'ici fin août, est totalement irréaliste. Il y a un enjeu de confiance d'ensemble dans cette négociation qui s'est beaucoup érodée, notamment à partir du traitement de la question de la frontière irlandaise, parce que contrairement aux engagements qui avaient été pris par le gouvernement britannique en décembre, il a fallu beaucoup de temps pour se mettre d'accord et obtenir que les Britanniques acceptent de mettre en place des contrôles à la frontière irlandaise au-delà du 31 décembre. Et l'on voit qu'actuellement, juste un dernier point,
oui.
Du côté européen, la priorité à l'heure actuelle, alors qu'on amorce cette récession, c'est de préserver le marché unique et de préserver l'unité des 27 et notamment des termes de compétition équitable avec les partenaires des pays tiers, notamment avec les Britanniques. Et on ne voit pas à l'heure actuelle les Européens ayant beaucoup d'appétence pour faire des concessions importantes, notamment sur ces enjeux d'encadrement des subventions pour lesquelles ils ont demandé aux Britanniques de s'aligner sur les réglementations européennes.
Alors franchement, Sophie Lousouarne, les Européens, est-ce qu'ils ont les moyens de peser sur les futures orientations sociales et environnementales du Royaume-Uni ? Est-ce que c'est pas un petit peu un jeu de dupe de dire on va conclure un accord et puis après on fera un petit peu ce qu'on voudra ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, les Britanniques ont voté pour le Brexit. Ils souhaitent donc
ne plus être réglementés par les normes européennes. Ils souhaitent reprendre leur souveraineté nationale. Et si le Royaume-Uni ne parvient pas à obtenir un accord commercial avec l'Union européenne, il y aura un Brexit sans accord qui nuirait énormément à la situation économique. Un Brexit sans accord ralentirait la reprise et fragiliserait l'économie britannique qui souffrira sans doute davantage du Covid que la France, l'Italie ou l'Espagne, selon l'OCDE, qui annonce aujourd'hui une chute du PIB de 11,5% en 2020. La sortie de l'Union européenne et le Covid fragilisera en effet l'économie britannique, mais l'économie britannique a la faculté de signer des accords avec d'autres pays et elle a une résilience et elle a aussi des fondamentaux économiques qui sont tout à fait sains. Le problème aujourd'hui pour le Royaume-Uni, c'est de maintenir la cohésion sociale. Et si le Royaume-Uni a été touché de plein fouet par le Covid, rappelons quelques chiffres, 291 409 cas enregistrés, 41 279 morts. Les conséquences en matière d'emploi ne dureront pas. Aujourd'hui, évidemment, le Royaume-Uni est encore en période de confinement et 8 millions de Britanniques vulnérables voient leurs revenus baisser et perdent leurs emplois. Mais le gouvernement est intervenu dans l'économie pour soutenir la population, les emplois et les entreprises. Et le chômage au Royaume-Uni n'atteindrait pas plus de 9%.
Alors Catherine Mathieu, je crois qu'on me dit que vous voulez réagir sur ce que vous venez d'entendre. Et j'ajoute une question, et c'est toujours la même finalement depuis des mois et des mois et des années. Qui a le plus besoin d'un accord ?
Alors, qui a le plus besoin d'un accord ? Je commence par répondre à votre question. En fait, je pense vraiment les deux, à la fois l'Union européenne et le Royaume-Uni. Sur le plan économique, c'est probablement le Royaume-Uni qui a le plus à perdre s'il sort de l'Union européenne sans accord. Mais sur le plan européen, ça poserait quand même un gros problème à cette Union européenne que le Royaume-Uni sorte sans accord, qu'on se retrouve aux portes de l'Union européenne avec un grand pays qui n'a plus aucun lien fort en termes réglementaires avec l'Union européenne. Il y a le souhait du côté de l'Union européenne de sortir d'une certaine façon gagnant de cette question du Brexit en disant aux autres pays de l'Union européenne, vous voyez, c'est impossible en fait de sortir de l'Union européenne. Regardez le Royaume-Uni, ce grand pays qui n'a pas réussi à sortir sans perdre beaucoup. Donc l'Union européenne essaie de s'assurer que le Royaume-Uni ne puisse pas sortir très facilement de l'Union européenne, ce qu'on peut comprendre. Le Royaume-Uni essaye de sortir de l'Union européenne tout en gardant la possibilité d'échanger avec l'Union européenne. Et je pense qu'il est important de rappeler que du côté britannique, hein, depuis toujours, l'appartenance à l'Union européenne, c'est vraiment l'appartenance à un grand marché, à un marché, à un échange, un marché où on échange des biens, des services, le travail, le capital, mais pas un projet politique. Donc il y a vraiment cette divergence profonde de perception de ce que doit être l'Union européenne entre le Royaume-Uni et les autres pays de l'Union européenne qui est très important. Et ce sur quoi je voulais aussi compléter ce que disait Sophie Louswan, c'est que sur l'aspect du Covid, l'impact du Covid sur l'économie britannique, aujourd'hui l'impact est quasiment le même au Royaume-Uni qu'en France, par exemple, ou dans les grandes... Prenons le cas de la France, pour faire simple. Et y compris dans les prévisions de l'OCDE, on envisage aujourd'hui une chute du produit intérieur brut britannique qui serait du même ordre que la chute du PIB en France. Et le Royaume-Uni a de façon a commencé plus tard le confinement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni se trouve dans une situation économique plus difficile que la France, par exemple. Mais il a mis en place des mesures de politique économique qui sont très semblables. à celles qu'on a mises en place en France, notamment sur la question du chômage partiel. On a des plans de maintien en emploi des salariés qui sont tout à fait équivalents ou très proches au Royaume-Uni de ceux qu'on a en France, avec des niveaux de maintien des salaires à 80% du salaire, même si le plafond est un peu plus bas. Enfin, il y a eu une réaction de politique économique au Royaume-Uni très forte, en termes budgétaires, en termes monétaires, avec un très grand soutien de la Banque d'Angleterre aussi à l'économie britannique. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans cette question du Brexit, en fait, le Covid ne va pas véritablement jouer. Toutes les grandes économies se retrouvent touchées de façon assez similaire par le Covid, et la question du Brexit reste très différente de celle du Covid.
Alors, on va... Je sais que Sophie Lussoirne voudrait réagir, mais je vais peut-être enchaîner d'abord, et je reviendrai vers vous, Sophie Lussoirne, évidemment, avec Elvire Fabry, pour préciser quelque chose que vous avez abordé tout à l'heure. Au fond, l'importance de cette négociation, elle est économique ou politique ? C'est quoi le plus important dans tout ça ? Est-ce que c'est de la symbolique ?
Catherine Mathieu a raison sur l'impact politique, et notamment du côté européen. Mais justement, on a le sentiment d'avoir consacré beaucoup de temps au débat politique. Et le vote, la question de motivation du Brexit, ça y est, a été assimilée. Si je puis dire, le vote sur le Brexit a eu lieu, le Brexit politique a eu lieu, le Royaume-Uni politiquement est sorti au 31 janvier 2020 de l'Union européenne. Maintenant, c'est le Brexit économique dont il s'agit. Et je pense que là, il faut renverser un petit peu la question, qui est de se dire jusqu'à quel point un post-Brexit dur, sans accord ou avec un accord minimum, compliquerait le redressement économique du Royaume-Uni. La question se pose également, évidemment, du côté européen. Et personne n'a envie d'un hard Brexit à ce stade. Maintenant, il faut aussi élargir un petit peu l'angle de vue et se rendre compte qu'en fait, la stratégie post-Brexit qui est mise en avant pour le moment par le Royaume-Uni, qui était ce qu'ils ont appelé Global Britain, qui est de projeter une ambition d'accords commerciaux, comme ça a été évoqué déjà en début de débat, avec les États-Unis, avec le Japon, avec maintenant l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais il faut se rappeler qu'il faut d'abord remplacer en fait les accords commerciaux que l'Union européenne avait signés avec pratiquement plus de 70 partenaires dans le monde. Il y a à peu près 40 accords commerciaux qui sont signés. Donc il y a ça. Et puis il y a en signer d'autres comme avec les États-Unis. Mais dans le contexte actuel, pas encore post-Covid, mais de la nouvelle phase qui commence, toutes ces négociations d'accords commerciaux vont être beaucoup plus compliquées, alors que la tendance est de se dire il va falloir renforcer la solidité de nos chaînes de production, diminuer les vulnérabilités, raccourcir. La tendance est plutôt de se dire on va miser plus sur une approche régionale. On va plutôt, ce qui veut dire pour les Européens en l'occurrence le marché unique, et tout ça sur fond de conflits entre les États-Unis et la Chine, avec des États-Unis qui exercent une pression de plus en plus importante sur leurs partenaires pour s'aligner sur leurs intérêts et se désengager des chaînes de production chinoises, se désengager des importations chinoises. C'est un contexte beaucoup plus compliqué pour le Royaume-Uni de compenser ce qu'ils vont perdre économiquement du côté européen avec d'autres partenaires à travers le monde. Donc il y a à la fois la négociation UE-Royaume-Uni et puis les négociations à travers le monde.
Alors Sophie Lussoirne, c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Boris Johnson a annoncé un Royaume-Uni davantage tourné vers, on va le dire, le Commonwealth, vers les États-Unis. Où en est le Royaume-Uni avec ses négociations avec ses autres partenaires ? Est-ce que négocier avec l'Union européenne, les États-Unis et les pays, notamment de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et d'autres pays du Commonwealth, est-ce que tout ça, en quelques mois, est-ce que c'est bien raisonnable ?
Alors, il faudra du temps, en effet, et l'élection américaine aura un poids considérable dans ces négociations, selon que le président Trump est réélu ou que Biden est élu, car Biden se rapprochera davantage de l'Union européenne, alors que Trump maintiendrait une relation spéciale avec le Royaume-Uni. Donc, le Royaume-Uni se trouvera à l'intersection de ces trois cercles majestueux dont a parlé Churchill dans
son discours de Landudno, le cercle du Commonwealth, le cercle transatlantique et le cercle européen. Je crois que le Royaume-Uni a à cœur de garder des relations très étroites avec l'Union européenne, déjà pour se remettre du Covid qui l'a frappé de plein fouet et qui a amené le gouvernement à mettre en place en effet ce dispositif de chômage partiel qui a coûté 21 milliards de livres pour les mois de mars et d'avril 2020. Et le ministère du budget a emprunté 62 milliards en avril 2020, 180 milliards en mai et en juin. Et le Royaume-Uni a connu un choc économique sans précédent depuis 300 ans.
Oui.
Et à terme, les revenus des retraités seront atteints, les pressions inflationnistes se feront sentir et on s'achemine vers des revendications sociales. Et donc, il faut aussi que le gouvernement prenne en compte l'opinion publique britannique qui souhaite le Brexit.
Mais peut-être pas à n'importe quel prix.
Non, pas à n'importe quel prix, car évidemment, aujourd'hui, le Royaume-Uni connaît une perte de pouvoir d'achat. Les Britanniques ont été atteints, et surtout les ménages les plus pauvres qui ont amassé une dette de 6 milliards de livres.
Catherine Mathieu, vous voulez compléter ?
Oui, effectivement, il me semble important de redire que la situation de l'économie britannique aujourd'hui n'est pas différente de celle que l'on connaît ailleurs en Europe, et prenons le cas de la France. On a vraiment deux économies comparables avec la France et le Royaume-Uni face au Covid. Et je ne pense pas que le Royaume-Uni soit dans une situation plus difficile aujourd'hui que ne l'est l'économie française. On a effectivement des dépenses publiques qui ont augmenté pour soutenir l'économie britannique. On a un endettement public qui a augmenté. Aujourd'hui, l'État britannique emprunte à des taux d'intérêt très faibles, de l'ordre de 0,15% seulement à 10 ans. Il a une banque centrale qui est là pour soutenir l'économie britannique. Donc la situation face au Covid n'est pas plus difficile pour le Royaume-Uni que pour d'autres économies. Par contre, sur les questions liées au Brexit, il est vrai que le gouvernement essaye de négocier donc avec de nombreux pays dans cette vision d'une Grande-Bretagne ouverte sur le monde. C'est le Global Britain dont parlait tout à l'heure Elvire Fabry. Donc c'est vraiment un élément très important de la stratégie britannique aujourd'hui. Pour le gouvernement britannique, il sera important de garder des liens commerciaux faciles avec l'Union européenne. Je pense aussi que c'est ce à quoi il essaye de s'employer. Après, à quel point l'Union européenne voudra bien revenir sur certains éléments sur lesquels jusqu'à présent elle n'a pas cédé. Prenons par exemple la question des aides aux entreprises, des aides d'État aux entreprises. Ça, c'est un sujet de discussion entre les Britanniques et l'Union européenne depuis plusieurs mois. L'Union européenne dit aux Britanniques, une fois que vous serez sorti de l'Union européenne, vous devrez continuer à appliquer les réglementations en vigueur à l'intérieur de l'Union européenne en termes d'aides d'État. Alors que le Royaume-Uni dit, mais pourquoi nous ferions ça? Nous serons souverains à ce moment-là. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette question des aides d'État, elle se trouve tout à fait posée de façon différente, ces règles ayant d'une certaine façon sauté avec le Covid et les États pouvant aider leurs entreprises en difficulté. Donc il y a des questions qui vont peut-être avancer en termes de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne dans ce contexte du Covid.
Elvire Fabry, je vais vous demander d'être bref parce qu'il nous reste assez peu de temps. On sait déjà que les contrôles douaniers à la demande des milieux d'affaires britanniques qui s'inquiètent de cette affaire de Brexit depuis le début ne seront pas complètement effectifs avant juillet 2021 et non pas 31 décembre 2020. Ça signifie quoi? Qu'il y a quand même un peu de flexibilité dans la négociation?
Ça, c'est la position britannique. C'est-à-dire que le gouvernement britannique a annoncé que tous les camions qui partiront du Royaume-Uni vers l'Union européenne ne subiraient pas de contrôle. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas du côté européen. C'est les importations européennes vers le Royaume-Uni ne subiraient pas de contrôle. En revanche, tous les produits qui arriveront du Royaume-Uni seront contrôlés parce qu'on ne peut pas se mettre dans la situation où le Royaume-Uni devient une sorte de porte arrière pour des importations qui ne respecteraient pas les réglementations européennes. Et on imagine très bien que les citoyens européens ne voudraient pas voir arriver des produits alimentaires qui ne respectent pas les normes européennes. Je voudrais revenir juste en deux mots sur cette question de subvention, parce qu'elle est cruciale, là, en l'occurrence.
Très rapidement, s'il vous plaît.
Les exceptions qui ont été mises en place pour pouvoir appliquer toutes ces nouvelles subventions et qui sont indispensables face à la crise économique, elles sont réglementées, elles sont encadrées au niveau européen, précisément pour qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence entre Européens. Donc plus que jamais, les Européens resteront fermes sur cette question.
Merci.
Et là, il y a un enjeu déterminant, qui est un enjeu de confiance dans
merci.
La négociation.
Merci Elvire Fabry, merci à nos autres invités, Catherine Mathieu et Sophie Louchouarn, merci à vous d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du Débat du Jour. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.
Appelez-nous, exprimez-vous.